ici dans un jardin exceptionnel, des maisons contiguës, relativement, je dirais pas récentes, bon, certainement les années 80-90, et puis des feuilles de couleur, etc., un bel éclairage ce soir vers 23h. Et nous allons rencontrer un photographe qui a fait un projet extraordinaire pour Fonds d'Action. Nous en parlerons en détail, je vous divulgue pas la teneur de cet ouvrage et de cette exposition dont nous allons parler. Ce photographe s'appelle Dominique de Risbourg, il a photographié des jeunes modèles, de la mode, etc., aussi des natures mortes, des choses exceptionnelles. Et puis là, des visages, des portraits. Et il va nous en parler et nous avons une heure de rencontre à avoir avec lui. Et ce sera certainement formidable. Je viens de sonner à sa porte. Dominique de Risbourg, bah, il travaille à Paris, il travaille dans le monde. Et puis là, au-dessus de Montreux, il a sa petite maison. Dominique de Risbourg, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien, et vous ?
Ouais, très bien. J'ai mis l'écharpe parce qu'il fait quand même un peu froid. C'est beau les couleurs de l'automne à la lumière électrique là, devant la maison ?
Ah, c'est super beau, ouais, parce que ça fait un genre de couloir un petit peu comme un corridor, c'est très très beau. Ouais.
Corridor de lumière. Et puis là, il y a la grande terrasse, on voit au loin les éclairages de la France, de la Savoie. Je me souviens avoir vu dans cette maison un bouquet de palmiers gigantesques. Alors, évidemment, nous sommes en novembre. Et ils sont morts ?
Alors, ils ont disparu parce qu'ils avaient une tendance un peu expansionniste chez nos voisins. Et pour éviter des problèmes de voisinage, on a préféré poliment les enlever.
Oui, ils les a arrachés.
On les a arrachés, exactement.
Mais ils se plaisaient ici. Ils passaient comment l'hiver ?
Ben, on les paillait et puis ils repartent un petit peu. C'est un peu comme du muguet. C'est des rhizomes, donc on enlevait avec le gel, ils mouraient, ils gelaient. Au printemps, on coupait et puis ça repartait d'en bas. C'était extraordinaire.
Il y a eu des bananes ou des fleurs ?
On a eu les fleurs qui faisaient des petites bananes, ouais.
Ah, quand même ?
Oui.
Ouais, mais ils n'arrivaient pas à maturité.
Non, pas ici, absolument pas, non.
Dominique de Risbourg, vous avez été un photographe que je dirais dans une première partie de la vie, léger, parce que vous travailliez sur la mode, sur des choses, bon, sans grande importance, mais avec un grand art, parce qu'il y a plusieurs manières de photographier les gens. Est-ce qu'on continue ça avec l'âge ? Est-ce que vous avez eu envie de perpétuer cette mode, ce côté frivole ?
Ben, franchement pas, parce que je crois que je me suis rendu compte que si j'ai fait des photos de mode pendant très longtemps, j'ai jamais été un photographe de mode, dans le sens où la mode ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Je m'habille avec des pulls tout simples, des jeans, des t-shirts.
Oui, mais pas les nanas.
Non, mais c'est vrai que quand on est jeune, il y a un côté sympa de voyager, de voir plein de gens. Mais je pense que il y a un côté un peu tellement superficiel qu'avec l'âge, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses plus importantes, plus intéressantes à vivre que le côté un peu froufrou, paillettes, et puis surtout de gérer l'ego de toutes ces personnes qui naviguent dans ce milieu.
Des personnes au féminin, la plupart du temps.
Alors oui, principalement, moi j'ai principalement fait des photos de mode féminine avec des femmes, mais dans le milieu, il y a tous, les coiffeurs, les maquilleurs, c'est des hommes, les stylistes, ça peut être des hommes aussi, les mannequins, moi j'étais plutôt dans un univers féminin, oui.
Alors Dominique de Risbourg, on est là dans un grand volume, il y a une cheminée suspendue au milieu, il y a très longtemps que vous habitez ici, à Palence ?
Ah, écoutez, ça doit faire 15-20 ans, je pense.
Ah, quand même ?
Ah oui, ça fait assez longtemps, oui.
Alors ces maisons sont construites, je ne sais pas, j'ai eu de la peine à évaluer la construction, c'est quoi, 90 ?
Ça doit faire, elles ont 25 ans, ouais, je pense 90, ouais.
Ah donc, tiens, ouais. Pas mal. Alors on est là devant une table, Dominique de Risbourg, il y a cet ouvrage que vous venez de faire paraître et nous parlerons de l'exposition qui est évidemment en parallèle, Tous égaux, nous sommes tous égaux. Le sommes-nous vraiment, Dominique de Risbourg ?
Je pense que dans certains cas, on l'est. C'est-à-dire que là, ce projet que j'ai fait pour Fonds d'Action, donc il y a une fondation qui fait de la recherche pour le cancer, l'idée c'était de me dire que quand on se retrouve devant un professeur, un médecin, devant un appareil de radio, devant un médecin qui va vous annoncer une bonne comme une mauvaise nouvelle, on peut être riche, pauvre, très connu, pas connu. J'ai l'impression qu'on se retrouve tous égaux, on se retrouve complètement nu devant ces personnes. Et je pense que là, il y a comme un genre de mise à zéro, et je pense qu'on est réellement, on est tous là, ce jour-là, on est tous égaux. Je pense sincèrement.
On est tous nus et à zéro. C'est-à-dire que là, on peut plus rien acheter, on peut plus rien utiliser de soi-même, si ce n'est un peu d'espoir, et puis se montrer aux autres tel qu'on est.
Ben, je pense qu'on peut absolument rien faire. Le jour où on vous apprend que vous êtes malade, ou on vous apprend que vous êtes guéri, on peut absolument pas maîtriser. Je veux dire, si on est riche, on peut maîtriser beaucoup de choses. On peut avoir une belle maison, une belle voiture, on peut voyager. Mais par contre, la richesse et la célébrité ou l'intelligence, ça vous permet pas de maîtriser d'être malade ou pas malade. Alors évidemment, je pense qu'il y a des maladies qu'on peut se créer en ayant une hygiène de vie pas terrible, peut-être, mais encore que. Mais je pense que la maladie, elle arrive là comme gagner au loto ou perdre au loto. Je pense que c'est la même chose.
Dominique de Risbourg, on va se mettre à table. Et vous allez vous mettre à table. Mettez-vous à côté de moi. On va feuilleter cet ouvrage qui vient de sortir, qui est un ouvrage à but. Alors, le but, évidemment, c'est pas de vous enrichir, c'est pas comme ça, vous n'avez pas besoin d'être célèbre non plus. C'est un travail exceptionnel, comme photographe, vous l'avez fait parce que tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez être un jour malade et qu'il fallait aider les autres, que c'est dans le but presque humanitaire de dire, voilà, nous sommes tous là, il faut de l'argent, on pourrait en trouver par une démarche artistique.
Exactement. C'est-à-dire que la recherche dans tous les domaines, les chercheurs ont besoin d'argent. Et puis, c'est vrai que peut-être que c'est arrivé à une période de ma vie où le métier de photographe a tellement évolué que maintenant tout le monde est photographe. Peut-être une période où il y avait un peu moins de travail, un peu plus de temps à réfléchir. Et là, j'ai eu cette réflexion de me dire, soit on fait rien, on reste à se morfondre dans son coin, ou alors on essaye d'utiliser son temps de manière intelligente. Donc là, en réfléchissant un petit peu à ce que je pouvais faire, j'ai eu cette idée de faire un projet pour Fonds d'Action, sachant que c'était la seule pour aider, donner de l'argent à cette fondation, donc Fonds d'Action, la seule chose que moi je pouvais faire, n'étant pas riche de naissance et n'étant pas devenu riche à cause ou grâce à la photo, c'était en essayant de faire un travail pour eux, en leur offrant ce travail, la vente du livre, la vente des images, la vente des tirages, ça permettrait de ramener de l'argent, sachant que tout le projet, tout ce qu'on fait pour le livre, pour les tirages, on reverse 50% à Fonds d'Action.
Alors, on va ouvrir ce livre qui vient de paraître, qu'on trouvera absolument partout dans toutes les librairies.
Alors non, on va les trouver uniquement dans toutes les librairies Payot, parce que Payot, Monsieur Vandenberg, a eu la générosité de nous offrir la distribution dans les librairies. Alors quand je dis offrir, on se comprend bien, le livre va coûter un certain prix, mais par contre, les magasins Payot ne prendront aucun pourcentage de frais de fonctionnement, c'est-à-dire que le livre sera vendu 100 francs, il y aura 50 francs qui va être reversé directement à Fonds d'Action, et le reste, ça permet de payer les frais d'impression, les faux frais. Mais on économise le pourcentage que Payot, qu'un distributeur, prendrait sur la vente d'un livre normal.
Pascal Vandenberg, qui a été le grand lutteur pour le prix du livre en Suisse, il a tout compris, puis en plus il est généreux.
Ah bah écoutez, il est très généreux, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie des personnalités du livre, et il est venu à la maison, on a discuté, et à l'époque il n'était pas question qu'on distribue le livre de manière traditionnelle, puisqu'on voulait reverser ses 50% en Fonds d'Action, donc le livre aurait été distribué par la galerie Ferrari qui expose l'expo, et puis par un site internet, et puis Pascal Vandenberg a dit, mais écoutez, moi sur un projet comme ça, je vous offre la distribution. Donc il m'a dit, je vous offre la distribution dans toutes les librairies Payot de Suisse romande.
C'est un projet, Dominique de Risbourg, qui est un projet de longue, longue, longue haleine, parce qu'on se connaît, on s'est souvent parlé. D'ailleurs, je figure dans le livre. C'est assez bizarre, d'ailleurs, de regarder des vraies célébrités. Et puis maintenant, je n'en suis pas une, mais les gens qui interviewent curieuses situations sont bientôt aussi intéressants ou intéressent le public comme les interviewés. Mais là, on trouve à la première page Zep. C'est un travail de longue, longue, longue haleine. Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus.
Ça fait 2 ans et demi. C'est 2 ans et demi de travail. Alors au début, ça a été un petit peu lent à démarrer. Et puis je dirais que le travail a commencé avec Gérard Abbaé, qui est un de mes amis et qui avait été touché par la maladie et qui avait un rapport très proche avec Fonds d'Action. Et j'avais besoin d'un cobaye, en gros, pour tester la lumière, faire les essais d'empreintes de pied. On en parlera plus tard pour ces empreintes. Et donc, il a joué le jeu tout de suite. Et puis, pour commencer un projet, il fallait, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc, il fallait que je puisse avoir 2-3 personnes connues qui puissent me permettre d'approcher d'autres personnes connues. Gérard Abbaé est le cuisinier 3 étoiles Michelin, très connu en Suisse. Et donc, il a joué le jeu tout de suite. Et c'est grâce à lui que le projet a commencé.
Alors, il y a un aspect technique qu'il faudra évoquer, mais on va juste feuilleter les premières images, puis on y reviendra après. On fera une petite pause musicale. Zep, belle gueule.
belle gueule, sympa. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il a de la barbe, alors que d'habitude, il a pas vraiment de la barbe. Et là, je l'ai photographié.
Il a un mouche, c'est-à-dire qu'il a une impériale, et puis maintenant, il l'a plus.
Non, c'est vrai. Mais là, il a une genre de barbe de peut-être 10 jours, parce qu'il s'était cassé le bras. Et donc, je pense que ça devait lui poser des problèmes, le bras droit. Donc, il pouvait plus dessiner. Et donc, je pense que ça devait aussi lui poser des problèmes pour se raser. Donc, c'est une photo un peu plus rare que les autres, du moins, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça.
Zep, absolument magnifique. Ici, une très belle fille, mais je ne la connais pas.
Alors, l'idée de ce projet, c'était de mélanger des gens connus, très connus, avec des gens pas connus, mais des gens pas connus médiatiquement, mais qui avaient fait quelque chose de leur vie. Alors, par exemple, typiquement, la deuxième page, c'est une femme qui s'appelle Catherine Lanvert, et elle a créé cette fondation qui s'appelle The Living Spring. C'est quelqu'un qui trouve des financements et qui amène en Inde des systèmes de purification d'eau dans les villages pour que les enfants ne soient pas malades en buvant de l'eau croupie ou de l'eau de mauvaise qualité. Une partie de sa vie, ça a été de trouver des financements et d'amener en Inde. Pour l'instant, c'est en Inde. Je crois qu'elle m'a dit que ça serait aussi après. Il y a des choses en Afrique qui sont prévues, en Amérique du Sud. C'est de pouvoir aider les gens en amenant de l'eau potable dans des endroits où les gens sont malades, où on complique la vie des femmes parce qu'il faut faire chauffer de l'eau et ainsi de suite.
Donc, c'est des gens qui ont fait des choses et qui sont remarquables. Ici, des empreintes de pied, on y reviendra. Ah, oh là ! Oh, vous avez pu la voir ! Mais c'est extraordinaire. Stan Wawrinka. Parce qu'on n'a encore pas dit dans quelles conditions ces stars ont posé. Ça, c'est la suite de l'émission. Mais on va vous proposer, grâce à Jean-Baptiste Roumins, Dominique de Risbourg, on va vous proposer une chanson. Une chanson sur, la photographie. Vous connaissez ça, j'imagine, Cartier-Bresson.
Bien sûr, oui.
Forcément. Et c'est une chanson de Jean-Louis Murat.
Taxi à Berlin, quai Saint-Bernard à Paris. Derrière la gare Saint-Lazare, crémation de bandits. Colette et sa dame de compagnie. Funérailles d'un acteur kabuki. Messe de minuit, Ascano en Italie. Hudson et Manhattan, forteresse Pierre et Paul. Johan et Frédéric, Joliot. Sous le regard.
jungle des vies où nul laisse de traces sous le regard de Cartier-Bresson. Au destin perdu, je trouve une raison. J'aime le photographe et son écart dans la jungle des vies où nul laisse de traces sous le regard de Cartier-Bresson. Au destin perdu, je trouve une raison.
C'était Jean-Louis Murat, Cartier-Bresson. Belle chanson. On est toujours chez Dominique de Risbourg, à Palan-Montreux. Et puis nous visitons cet album qui vient de paraître, qui est un grand format, au profit de Fonds d'Action, qu'on trouvera dans les librairies Payot. Et on voit Stan Wawrinka. Alors on va peut-être... Lui, on le connaît beaucoup, on connaît son visage, on l'a vu mille fois. Mais comme ça, on ne l'a pas vu. Alors vous allez nous expliquer, Dominique de Risbourg, comment vous avez photographié et par quelle technique vous avez obtenu à la fois cet éclairage, ces visages, etc.
L'idée, c'était de photographier pour une égalité, de photographier tout le monde en noir et blanc, pour essayer d'avoir une unité sur le même fond, pour qu'il y ait pas, que l'œil soit pas attiré par des petits détails dans le fond, et avec la même lumière. Pour que l'idée, c'était que j'ai recréé un petit peu un genre de photomaton. Il y avait une valise, les gens s'asseyaient sur la même valise, la même hauteur, il y avait un fond derrière eux qui était le même, comme dans un photomaton, et puis à la place de l'objectif du photomaton, il y avait moi avec un appareil photo, et puis une grande lumière juste derrière ma tête. Et tous les repérages, les endroits étaient toujours la même chose, c'est-à-dire que l'appareil photo se trouvait à 2 mètres du personnage, la lumière était toujours placée de la même manière pour que tout le monde soit photographié de la même manière, pour qu'il y ait réellement une unité.
Et puis... Comme j'ai posé, vous posez une question aussi, vous suggérez en tout cas une idée au moment de la pose, vous dites quelque chose à vos modèles et c'est très important. Ensuite, on viendra à une autre chose plus importante, c'est le physique, c'est-à-dire les épaules nues. Mais vous leur dites...
Alors, je leur demande de regarder la caméra, de penser à quelque chose qui peut être gai, de quelque chose qui a une belle, a une odeur, un souvenir d'enfance ou à la tristesse, si il y a un rapport avec la maladie ou si ils sont heureux parce qu'il y a quelqu'un de chez eux, autour d'eux qui a été guéri. Et chacun pouvait penser à une chose que je ne connaissais pas. Par contre, ce que je leur demandais, c'était de ne pas bouger pendant 3 photos. C'est-à-dire que je faisais 3 photos avec le flash. Donc, ça faisait à peu près une image toutes les secondes pendant 3 secondes. Et ils devaient penser à la même chose. Et ces 3 images, après, sont superposées pour faire durer le temps. L'idée, c'était de faire durer le temps, de pas avoir un instantané d'un millième de seconde, mais d'avoir 3 instantanés qui s'additionnent pour que le regard ait une certaine profondeur.
Les épaules nues, ça pose pas de problème pour les gars, encore que, ça dépend desquels. Pourquoi les épaules nues ?
Alors les épaules nues, l'idée c'était aussi de créer une égalité, c'est-à-dire que quand on se retrouve devant un cuisinier, il a une veste de cuisinier, devant un homme d'affaires, il va avoir une chemise avec une cravate. Quand on retire l'habit, on sait plus qui c'est. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette réflexion. Ils étaient étonnés, par exemple, il y a Daniel Rossella, on a l'habitude de le voir avec une chemise à carreaux, et là tout le monde ne le reconnaît pas parce que ils le reconnaissent après coup, mais le fait d'être sorti d'un contexte, les gens, ils se retrouvent avec une vraie égalité, il y a une certaine neutralité. Les gens, l'habit fait le moine d'une certaine manière.
Oui, certainement. Alors, ça dépend. Les filles, davantage André Raboud, extraordinaire. Ici, au nom de bleu, Bernard Russi. Alors là, c'est la photo qu'on voit pratiquement, mais sans les vêtements, qu'on voit pour les lunettes.
Bah, exactement. Alors, c'est vrai que, c'est vrai que j'ai la chance de travailler pour Visilab. C'est moi qui, je fais de temps en temps les photos pour les campagnes. Et c'est grâce à Visilab que j'ai rencontré ces personnalités, que ça soit Bernard Russi, que ça soit Stan Wawrinka. Et c'est durant ces prises de vue que je leur ai demandé s'ils acceptaient de participer à ce projet. Et c'est grâce à ce client que j'ai pu arriver à photographier que Stanislas, Bernard Russi, Lolita, Dominique Wawre, et puis j'ai même photographié le président, donc Monsieur Maury de Visilab, parce que ça faisait partie d'un tout. J'ai profité un peu de la présence de toutes ces personnalités, et si j'avais pas travaillé pour Visilab, j'aurais pas photographié ces personnalités. Ça me paraît assez évident, quoi.
Alors ici, Franck Bourlec, qui a été le sujet, notre invité, où nous étions invités chez lui la semaine passée. Ah, voilà Rosla. C'est vrai qu'il... C'est étonnant, parce que Il a un visage relativement lisse, etc. Mais il a des épaules et il a un haut de corps presque rondouillard et lisse comme du marbre. Et on dirait une tête posée sur un bloc de pierre.
C'est vrai, exactement. Et ce qui est amusant dans tous ces portraits, c'est que les portraits sont carrés, sont toujours cadrés de la même manière, donc à peu près au niveau du pli de l'épaule. Et chaque portrait est différent. Sur certaines images, les épaules prennent plus d'importance que le regard, parce qu'on a l'impression que c'est toujours les yeux qui sont importants. Mais la manière dont les gens mettent la tête dans les épaules, ou se tiennent droit, ou s'arrondissent, ou se mettent un peu de profil, on a une façon de reconnaître les gens différemment, une expression différente.
Alors ici, le yéti du livre, Malcolm Braff, le pianiste, il est extraordinaire. Alors donc, il est poilu de barbe, de tête, de moustache, de cheveux, et de torse, et d'épaule. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant de le voir comme ça. Et en même temps, c'est une superbe tête. C'est beau, ces portraits.
Là, on a cette impression d'avoir deux yeux qui sortent d'une boule de poils. Et puis en plus, ce qui est amusant, c'est que sa barbe, elle est poivre et sel, et le blanc du poivre et sel, c'est la forme d'un cœur.
C'est très joli. Ici, mais je le connais ou pas ? Non.
Alors, Jean-Luc Morne-Herbanet, c'est le directeur de la Loterie Romande.
Il ressemble à Claude Frottet. Et puis ici, un grand personnage qui est super connu, qu'on n'a jamais vu, les épaules nues.
Jamais, non. Je pense Jean-Claude Biver, je pense, à part les gens proches de lui ou pendant les vacances.
Mais bien entendu.
Voilà, mais je ne pense pas que dans son travail habituel, dans sa manière de se représenter dans le public, on le voit comme ça. Et là, c'est quelqu'un d'une grande générosité, parce que je suis arrivé chez lui, il avait accepté tout de suite. C'est une des personnalités qui a accepté alors que le projet n'existait pratiquement pas. Donc il a fait confiance.
Et puis il avait compris.
Alors, quand je suis arrivé chez lui, je suis pas si sûr, parce que quand je lui ai demandé d'enlever sa chemise, il a été un peu surpris, mais alors, il s'est exécuté de manière super simple. Les chaussures et les chaussettes, c'était pareil, c'était pour faire les empreintes de pied. C'est quelqu'un d'une simple, je dirais que quelqu'un de très simple, généreux.
Les femmes peuvent résister aussi un tout petit peu davantage. Par exemple, Lolita Morena, qui est quelqu'un... C'est une femme, elle est belle, elle a vécu de sa beauté, bon, aussi de ses talents, bien entendu. Mais se montrer sans maquillage du tout, se montrer telle qu'elle et sans retouche, ce qui n'est pas du tout évident, c'est cruel, parce que ces images, à la fois elles sont belles et authentiques, mais elles sont cruelles. Les femmes ont-elles accepté plus facilement ou moins facilement ?
Alors, cruelles, je ne sais pas si elles sont cruelles.
Elles sont réalistes.
Elles sont réalistes. Et puis, l'idée, c'était de montrer les gens au réveil, le matin, sans maquillage. Et c'est clair que pour les femmes, c'est un vrai cadeau qu'elles ont fait, parce que pour toutes ces femmes publiques qui ont l'habitude de maîtriser une image, qui sont maquillées, qui passent à la télé ou dans les magazines, qui sont retouchées de temps en temps, là, accepter de poser sans fard, sans maquillage, sans fond de teint, sans rien, c'est un vrai cadeau. Donc, c'est vrai que
c'est une intimité absolue.
Ah, c'est des photos d'une intimité incroyable. C'est vrai qu'il y a des photos, on a réellement l'impression, on peut toucher la peau, on a réellement l'impression d'avoir sa compagne devant soi le matin, ou d'avoir les gens qu'on connaît très très bien, de les voir de très près. Et ça a plus été avec certaines femmes d'arriver à les convaincre, de les rassurer, de leur dire, mais écoutez, mais sans maquillage, vous êtes encore plus belle. Et deux, trois personnes, ça a été peut-être un des plus beaux cadeaux, c'est que deux, trois personnes m'ont dit, mais je ne regrette pas d'être venue, parce que pour finir, je suis aussi bien sans maquillage.
Mais c'est formidable, parce que le titre « Tous égaux », on se dit « ce livre, c'est un livre de photos, etc. » Mais c'est bouleversant, parce que de voir des stars ainsi, aussi naturelles que ça, on se dit « ouais, ils sont comme moi le matin ». Et à plus forte raison, moi j'ai posé dans ce livre, mais je ne me suis pas aimé, mais de toute façon je ne m'aime pas, je ne me suis pas surpris. C'est un peu cruel quand même. Moi je trouve que c'est... Il faut être lucide dans la vie. Si on ne l'est pas assez, alors on trouve ça cruel.
C'est cruel, c'est-à-dire que toutes les personnes dans le livre, c'est vrai qu'elles n'ont pas été photographiées sous le plus bel angle, puisque c'est le même angle pour tout le monde. Et puis, il y a des gens qui arrivent des jours fatigués, il y a des gens que j'ai photographiés qui m'ont raconté des histoires qui se sont un peu livrées par rapport au sujet, au projet, qui avaient vécu dans leur chair cette maladie, ou bien qui avaient accompagné des gens proches d'eux pendant un certain temps. Donc, ces gens se sont laissées photographier, elles ont réellement offert une certaine leur intimité, elles ont réellement fait un cadeau. Et c'est vrai que ce projet, pour moi, il avait une importance capitale, parce que toutes ces personnes qui sont dans ce livre, sans exception, c'est des...
Il y en a combien ?
Il y en a 96.
Oui.
Plus 4 dessins, parce que il y a des dessinateurs, et pour la petite histoire, pour un peu casser le rythme du livre, les dessinateurs, donc Zep, Burki, Barig, et puis Mix et Remix, ont offert un dessin à la place de leur nom. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le portrait de la personne et de son nom en face, il y a le portrait du dessinateur, et en face, il y a un dessin, et la signature du dessin signe leur nom. Et ces dessins sont offerts aussi à Fondaction, ils seront en vente aux enchères, et la totalité de la somme récoltée ira pour Fondaction. Pour les dessins.
Alors ici, deux personnages à la fois que tout oppose, mais en même temps que tout réunit aussi. C'est d'un côté Freddy Girardet et Marie-Thérèse Chapa, la grande vigneronne valaisanne. Elle est formidable. Elle est vraiment tellement nature dans la vie. Et lui, Freddy Girardet aussi. Mais Freddy Girardet, pour le convaincre, c'est difficile.
Disons que ça a été long.
mais c'est normal, parce qu'il se réfugie. Il a une certaine... retenue.
C'est vrai qu'il a une retenue, c'est quelqu'un de très timide, de très pudique. Et c'est vrai que d'accepter de se faire photographier torse nu pour un homme, c'est pour lui, je pense que ça a été difficile. Et donc le cadeau, il est encore plus grand.
On va tourner les pages. Là, c'est les empreintes et on y reviendra. Là, je vais voir si je les connais tous, plus ou moins. On ne connaît pas tout et tout le monde. Ah, ça, c'est mon ex-collègue, Mélanie Chapuis, c'est-à-dire Madame Zep.
Exactement.
Et puis, elle est belle, là.
Elle est très, très belle. Et d'ailleurs,
bon, elle est belle dans la vie. Hein.
Elle est belle dans la vie, c'est une très belle femme. Et c'est grâce à elle, parce que donc l'idée du livre aussi, c'est que chaque personnalité amenait une nouvelle personnalité pour m'aider à avancer un peu dans le projet. Parce que c'est clair que téléphoner à des personnalités, leur demander, leur expliquer un sujet, les gens n'acceptent pas. Alors elle faisait partie du projet au début, et puis c'est elle qui a proposé donc Philippe Chapuis. Et voilà, et donc le Zep, Philippe Chapuis, est dans le livre grâce à Mélanie Chapuis.
Je suis désespéré.
Mais il ne faut pas l'être désespéré, c'est vous là. Et puis cette photo, elle est absolument superbe, je le trouve.
j'aimerais regard, Dominique de Risbourg, j'aimerais être autrement. Vous êtes en fin d'album, c'est au moins une signature, ça bien sûr. Ça me désespère, moi, je ne m'aime pas. Je dois consulter, je dois faire quoi?
Mais je crois que c'est juste... vous êtes très dur avec vous-même. Parce que franchement, cette photo, je l'ai montrée à plein de gens. Tout le monde la trouve très, très belle. Donc, il faut juste vous convaincre que cette photo est belle et que vous n'êtes pas si moche que ça.
Merci, Dominique. On écoute dans un titre de Nina Simone, c'est Sophie Hunger. « I put a spell on you ».
Because you're mine, yeah, you're mine. Boy, you better stop the things you do. Stop the things you do. Or
C'était Nina Simone dans... Ben oui, interprétée par Sophie Hunger, notre chanteuse nationale. On continue de feuilleter Tous égaux, cet album absolument superbe. Alors là, évidemment, un visage qu'on connaît, mais vraiment absolument par cœur. Pascal Auberçon, qui, toujours pareil à lui-même. Lui, je veux te dire, il a une belle gueule depuis toujours.
Il a une belle gueule, c'est quelqu'un aussi très généreux. Je me rappelle, j'étais le photographier dans son atelier...
À Lausanne, au Flon.
À Lausanne, au Flon. Et on a passé, je sais pas, presque deux heures et demie. C'était un grand moment.
Et puis Anne-Sophie Pic, voilà quelqu'un de petit, friable, une femme extraordinairement forte, lumineuse, intelligente, la grande chef du Beau Rivage Palace, ou disons déléguée, qui délègue sa cuisine là-bas. Était-ce facile de la convaincre ?
Ça a été long parce qu'elle était très inquiète sur le fait de ne pas être maquillée. C'est quelqu'un qui, je pense, maîtrise beaucoup son image avec ses petits chignons.
Mais elle se maquille peu.
Je pense qu'elle se maquille quand même pour les photos d'habitude. Et là, elle a accepté. Et le cadeau qu'elle nous a fait, c'est de sortir. J'ai fait les photos dans une chambre du Beau Rivage. Elle est arrivée avec sa petite, blouse blanche, avec les cheveux tirés. Et puis, elle est repartie dans la salle de bain. Quand elle est revenue, on avait l'impression qu'elle se levait le matin. Donc, elle avait les cheveux en bas. Elle était arrivée, donc, les épaules dégagées. On avait l'impression que c'était quelqu'un qui venait de se lever, qui prenait son petit déjeuner avec son mari et ses enfants. C'était quelqu'un qui a... Le fait de ne pas la voir avec les cheveux tirés, de ne pas la voir en cuisinière, là, c'est une Anne-Sophie Pic, c'est Madame Anne-Sophie Pic, c'est une femme.
Alors, ce qu'il y a de formidable dans ce bouquin, c'est qu'il y a un mélange d'hommes, de femmes, de toutes les générations. Et là, c'est la belle gueule romande, 23 ans, déjà grand succès, un regard qui tue. Il est vraiment beau, ce garçon.
Oui, il est très beau et en plus, il est très sympa.
Oui, en plus, il est très rigolo. Il se prend pas la tête.
Ben non. Bassem Becker, je l'ai photographié dans un bureau de sa production vers Lausanne, je crois. Il rentrait du Japon, donc il était un petit peu fatigué, mais il est arrivé.
Ça se voit pas à un certain âge, hein.
Ça se voit pas, effectivement. Ça se voit pas.
Alors, d'autres. Ah oui, ça, un homme qu'on voit sur tous les lieux d'événements ici sur la côte lémanique.
Édouard Curchaud, photographe, collègue.
Ouais. Mais il a. Voilà, c'est le Père Noël, quoi.
Ah, c'est le Père Noël avec ses cheveux longs blancs, sa barbe blanche. Il est extraordinaire, quoi. Il a un visage incroyable.
Et puis, le nouveau Nops.
Et le nouveau Nops, Monsieur Jaton.
Ils ont tous accepté sans réticence. Pierre Keller, oh non de sort, qui veut voir. Et puis là, notre copain Denis Martin. On continue. Isabelle Falconier, waouh, mais quelle magnifique galerie. Alors, ils ont tous accepté en disant, paf, oui. Non, on sait bien que Freddy Girardet, que non. Anne-Sophie Pic, que non. Mais il y en a. La plupart ont dit, ouais, boum, j'y vais, je me montre.
Ah oui, il y a des gens qui ont été immédiats dans leur réponse. Franchement, oui. Donc, des gens comme Isabelle Falconier, elle a répondu tout de suite. Et puis, après, en discutant un peu avec elle, on a osé lui demander si elle accepterait de faire la préface du livre. Et elle a accepté de faire cette préface du livre. Donc, elle a offert la préface du livre. Et puis, pour ceux qui liront le livre, vous verrez, c'est une préface qui est absolument... Ayant vécu l'expérience, elle a su réellement retranscrire ce que les gens pensent se retrouvant assis devant moi pour faire la photo.
André Koudelski, vous avez vraiment écrémé le gratin. Benoît Violier, ici les empreintes de pas, un grand chef. Alors beaucoup de cuisiniers, parce que vous les connaissez bien, vous faites aussi de la photo, je dirais pas alimentaire, mais en tout cas gastronomique.
Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de photos de cuisine, j'ai fait des livres de cuisine, j'ai travaillé beaucoup pour certains cuisiniers. Et puis le projet a commencé, Gérard Abeille était donc le premier à accepter de poser. Et puis connaissant des cuisiniers, l'idée aussi c'était de montrer que le côté tous égaux, en enlevant l'habit, donc en acceptant de poser torse nu, donc épaules dégagées, ça amenait ce côté un peu d'égalité. Et puis le but, c'est vrai que les cuisiniers, on ne voit jamais un cuisinier dans un magazine, dans un journal, sans être habillé en cuisinier. Donc là, c'est la première fois, je pense, qu'à part les gens proches de ces personnalités, qu'on verra un cuisinier, qu'on verra un Gérard Abaé, qu'on verra un Philippe Rochat, l'épaule dégagée.
On les verra dans leur costume habituel ou alors leur costume sportif. Là, par exemple, ici, c'est Philippe Rochat avec son vélo et puis sa tenue vélo. Quoi.
Exactement. Mais là, c'est vrai que de voir tous ces cuisiniers sans habits, juste les épaules dégagées, ça donne un côté un peu surprenant. On a presque de la peine à les reconnaître.
Lolita Morena, je t'embrasse. Elle est belle.
C'est une très belle femme. Très belle femme, très sympa. Et elle a joué le jeu aussi tout de suite. Et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour certaines personnes qui ont l'habitude d'être maquillées. Mais Lolita, je la connais un petit peu. C'est quelqu'un qui a juste pas de problème avec son image et puis qui accepte le fait. Un jour, on discutait de photos, justement, de publicité. Et elle me dit, mais maintenant, j'en ai marre qu'on me retouche sur toutes les photos pour qu'on me donne, qu'on donne l'impression que j'ai 40 ans. Elle dit, j'ai 50 ans. Et ben, j'ai 50 ans.
Même plus.
Voilà. Je sais pas quel âge. Je sais plus quel âge elle a.
Non, mais elle a fêté ses photos. Elle a fêté ses 50 ans en posant pour l'illustrer. C'est déjà, il y a plus de 15 jours et 6 mois.
Hein. Ouais, c'est vrai. Mais elle accepte juste, elle veut juste qu'on montre une image d'elle, de son âge. Elle a juste pas envie qu'on la transforme et puis qu'on la mette d'une fille de 20 ans, quoi.
Ici, le grand violoniste Pierre Amoyal, il est tel quel, on imagine la chemise, le nœud pape et son violon, mais c'est vraiment le même personnage. Je pense qu'à la sortie du lit, il devrait étonner personne.
Alors, je ne le connais pas bien, donc il a une certaine douceur, une belle douceur.
Alors, vous avez fait exact contraire des studios Harcourt à Paris. Vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est les studios Harcourt à Paris, parce que depuis 1934, Colette Harcourt a créé un studio. Il existe depuis, 80 ans. Ça continue, les éclairages sont toujours les mêmes, léchés, etc. Comment font-ils, subliment-ils les personnalités qu'ils photographient?
Alors bon, Harcourt, c'est déjà un style de lumière avec beaucoup de lumière, des effets de lumière. C'est des images en noir et blanc, bien qu'ils font des couleurs maintenant. Et surtout, Harcourt, c'est beaucoup de retouches. C'est-à-dire qu'on unifie les teints. À l'époque, avant le numérique, les gens retravaillaient les négatifs pour pouvoir retoucher les images.
C'est au pinceau?
Au pinceau, en grattant les négatifs pour enlever les petits défauts. Là, dans ce projet, l'idée, c'était d'aller à l'envers de la lumière. C'est pas une lumière, c'est juste un éclairage très simple pour juste illuminer la personne, mais il n'y a pas d'effet de lumière, il n'y a pas de contre-jour dans les cheveux. L'idée, c'était pas de faire des jolies lumières, c'était d'avoir un éclairage qui éclaire la personne. Point.
Alors, on va continuer de le feuilleter. Je ne reconnais pas tout le monde, mais tout le monde s'y reconnaîtra. Dominique Vavre, Étienne Krebs, qui n'est plus du monde de la cuisine aujourd'hui, mais qui est toujours dans le monde. Et puis, son ami Georges Wenger. Alors, de temps en temps, les amis sont côte à côte. C'est pour leur faire plaisir?
Alors, l'ordre dans le livre, il est un peu aléatoire. C'est-à-dire que j'ai réellement choisi, il n'y a pas de raison valable, il n'y a pas de justification. Je me suis amusé un peu à mettre des gens que je connaissais, et puis je savais qu'il n'y aurait pas d'histoire de les mettre ensemble. Sachant que Georges Wenger et Étienne Krebs, c'est des grands amis, c'est presque des frères, ça me paraissait évident de les mettre ensemble.
Mais on m'est mis tout seul, j'ai pas d'amis?
J'ai hésité de vous mettre à côté de moi.
Vous auriez dit, vous êtes un sacré coquin et un sacré copain. Esther Mamarbachi, Philippe Chevrier, formidable, mais c'est... Ah, je ne les connaissais pas tous. Qui est ce monsieur, Francis Assès?
Francis Assès, c'est un coiffeur-maquilleur de Lausanne. C'est quelqu'un à qui je travaille pour faire des photos. C'est un très très bon coiffeur. C'est le coiffeur-maquilleur de Suisse romande.
Du théâtre et du cinéma, hein?
Alors, je pense qu'il fait les deux, oui. Mais moi, je le connais au niveau photo.
Des empreintes. Alors, pourquoi les empreintes? Parce qu'il y a des empreintes de pieds. Vous nous demandez, à tous les sujets, à tous les invités de ce livre, de poser ses pieds dans une mousse, je ne sais pas quoi, un peu comme si on allait chez l'orthopédiste. Et puis, vous en faites un moulage en plâtre. Pourquoi ça?
Ce que je voulais, c'était compléter le portrait avec quelque chose en plus. Donc, je voulais juste essayer de symboliser... la trace qu'on laisse de notre passage sur Terre. C'est-à-dire que on s'imagine qu'on marche sur la plage, on voit la personne avec qui on est qui marche sur la plage, qui laisse une trace de pas dans le sable mouillé. C'est la vie. Et puis la mer arrive, et une grande vague arrive, et puis elle efface la trace, et puis il n'y a plus de trace. C'est la vie, on n'est plus là.
C'est beau, donc c'est la trace arrêtée.
C'est la trace arrêtée, c'est la trace un peu physique, c'est un peu un symbole de ce qu'on pourrait représenter de notre passage sur Terre.
Dès la semaine prochaine, on pourra voir toutes ces plaques et tous ces tirages et toutes ces photos, absolument toutes, les 99.
Alors, à la galerie Ferrari, donc...
À Vevey, sur le quai Perdonnet.
Exactement. Il y aura la totalité des tirages, donc il y aura les 96 tirages avec un format de 40 sur 40 cm. Il y aura les dessins des dessinateurs en plus. Et puis, il y aura... Chaque image sera vendue à 29 exemplaires. Et on fait un tirage unique, un très grand format, 90 sur 90, avec l'empreinte en plâtre, qui sera vendu aux enchères.
On écoute, après cette belle idée de tous égaux, une chanson de Vincent Delerme. Vous savez, Vincent Delerme qui chante comme ça. Ben, il chante un photographe lui aussi, c'est une chanson très courte. Martin Parr.
Ice cream balnéaire.
Martin Parr.
80s Angleterre.
Martin Parr.
Ventre blanc à l'air.
Martin Parr.
Nager quelque part. New Brighton, caissière, caddie, pack de bière, plastique dans la mer, jeté quelque part, casino désert, vert fluo dessert, cheveux bleus grand-mère. Gazole ou super, enfant à l'arrière, mal au cœur sur terre, dormir quelque part.
C'était Vincent Delerme pour évoquer un autre photographe choisi par Jean-Baptiste Roumas. On est toujours à feuilleter ce livre Tous égaux. On ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il y aura des surprises. J'aimerais descendre dans votre atelier, si vous voulez bien, Dominique de Risbourg, pour aller voir les tirages qu'on peut voir dès la semaine prochaine dans cette belle galerie Ferrari Art Gallery. On descend l'escalier en colimaçon en bois qui mène à votre atelier. Attention à la tête. Oui, bah, vous n'avez pas besoin de faire attention. Là, il y a des très belles photos des amis, des photos de fleurs, etc. Vous êtes considéré aujourd'hui comme un grand portraitiste grâce à ce livre et c'est un peu ce qui vous passionne?
Alors, ça serait un peu prétentieux de penser ça. J'aimerais maintenant m'orienter sur le portrait. Parce que c'est vrai que c'est la chose qui me passionne, de pouvoir rencontrer des gens, d'essayer d'extraire d'eux un regard. Ça me passionne vraiment maintenant par rapport à tout ce que j'ai fait avant.
L'âme, on la voit dans le visage?
Oui, toujours. Dans le regard, dans la peau, dans les yeux, même les yeux fermés, il y a une genre d'émotion qui transmet d'un portrait.
Alors, où sont-ils ces cadres? Ah, ils sont tous là. Waouh! Oh là là! Ouais, c'est étonnant. Alors, il y a les dessins, là, notamment Barrigue, que je vois, et tous les autres. Donc, ça en fait une épée clé. Et on verra tout ça la semaine prochaine. Stan Van Brica. Alors, au vernissage, il y a eu évidemment des personnalités exceptionnelles aussi. Forcément, les gens photographiés.
Bah, il y a beaucoup de personnalités du livre sont venues, oui. Donc c'était très sympa parce que ça a permis de faire parler un peu de l'exposition.
Alors vous avez envie de les garder si elles ne se vendent pas?
Oui, je vais les garder.
Parce que c'est une aventure humaine aussi, vous vous en souvenez pour chacun?
Alors je me souviens de tout le monde, ça c'est sûr. Tout le monde avait une générosité différente, hein, mais tout le monde était touchant.
Est-ce qu'il y a des gens que vous avez contactés, on ne va pas les nommer, qui n'ont pas cette générosité, qui ne vous ont pas donné leur image pour comprendre et pour aider à Fond d'Action?
Là, il y a 96 personnes et la liste des gens que j'ai contactés, c'était le double. Donc ça veut dire qu'entre les gens, une centaine de personnes, les gens qui n'ont jamais répondu aux demandes parce qu'ils ne voulaient pas répondre, et puis les gens qui ont répondu poliment non, pour des raisons X ou Y tout à fait respectables, mais il y a à peu près la moitié des gens qui ont refusé. Ouais.
Ils ont refusé par pudeur d'après vous ou pour d'autres raisons?
Ah, je pense que y a la pudeur, c'est possible. Je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui œuvrent pour d'autres associations. Donc, c'est respectable de pas pouvoir se diluer et puis d'accepter pour tout le monde. Donc, je pense que les gens qui sont dans ce livre et dans cette expo, peut-être qu'ils avaient plus une affinité avec la recherche sur le cancer plutôt qu'une autre recherche.
Ça a l'air d'être qu'un livre, qu'une exposition. Dans le fond, vous avez bouleversé les médias ici, grâce à ces photos. Il s'est passé quelque chose en Suisse romande. Tous les médias en ont parlé. Est-ce que vous n'en gagnez rien, sinon la notoriété? Rien de plus, c'est tout.
Alors, c'est clair que quand on fait une exposition comme ça et que votre nom est cité, les gens parlent de vous. Donc, je pense que c'est positif pour qu'on n'oublie pas que je suis photographe de ce côté-là. Mais par contre, après, financièrement, non, je ne me suis pas vraiment enrichi avec un projet comme ça. si j'arrive à couvrir les frais, et puis aussi la galerie Ferrari qui a investi beaucoup d'argent parce qu'elle a fait faire un site spécialement pour la vente aux enchères, ne prenant pas le pourcentage habituel, même Payot qui ne prend pas le pourcentage, et puis tous les gens qui nous ont aidés, donc des gens comme Visilab qui ont participé massivement pour le livre, des gens aussi, les frères Colère, ceux qui nous ont offert toutes les mousses pour pouvoir faire les empreintes.
Les orthopédistes de Vevey.
Les orthopédistes de Vevey, ils ont été des mécènes dans l'histoire. Il y a aussi Patrick Delarive qui nous a beaucoup aidés, Monsieur Dolt qui nous a beaucoup aidés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés en achetant des livres d'avance pour pouvoir nous aider à avancer un petit peu.
Alors, il y a eu beaucoup de doutes durant ces deux années et demie de projet. On se connaît, on se contactait, on se parlait. Et un jour, vous m'avez envoyé une photo d'un berger allemand. Racontez-moi cette aventure, je trouve ça très drôle. On ne le retrouve pas dans le livre, évidemment.
Ah non, ça a été un énorme dilemme.
Alors, quand je dis berger allemand, ce n'est pas un berger qui garde des moutons en Allemagne, c'est un chien.
Pas vraiment, c'était le chien des gardes frontières suisses, c'était Daika. Et puis,
star ?
C'était une star d'une certaine manière, et je me suis posé la question me disant que pour donner un peu de légèreté dans le livre, plutôt que d'avoir toujours les portraits puis les empreintes de personnes, on pouvait avoir une star animale, entre parenthèses, donc de photographier la tête du chien et d'avoir les empreintes des quatre pattes.
Une sorte de Rintintin.
Exactement, une sorte de Rintintin. Exactement. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté un peu léger. Et puis, il y a eu une grande j'ai essayé de poser la question à tous les gens qui avaient participé, et c'est vrai que en discutant avec alors certaines personnes réagissaient avec le cœur en disant mais c'est génial, moi je suis d'accord d'être à côté d'un chien ou c'est pas un problème.
Oh bah Lolita.
Par exemple Lolita, mais beaucoup de personnes
moi aussi j'aurais accepté.
Bah voilà, vous auriez accepté. Et puis une autre partie de personnes pensaient que le projet avait une teneur seule. Et que c'était peut-être pas la peine de rajouter un côté tendre ou amusant un côté amusant ou un côté tendre. Donc qu'il fallait que le projet il existait par lui-même et puis qu'il fallait le laisser comme ça. Donc c'est vrai que il y a une personne qui s'occupe du chien, donc un attaché de presse pratiquement la personne qui s'occupe de Monsieur Bachard, je vais le citer, donc aux douanes à Genève, qui a fait des pieds et des mains pour avoir une autorisation par la Confédération. Ça a été très 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 compliqué. Et puis pour finir, j'ai dû annuler. Je regrette d'un côté, puis d'un autre côté, voilà, il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. Et c'est vrai que je pense que par rapport à toutes ces personnalités qui sont très connues, je pense qu'il y avait
il fallait pas les insulter, il fallait pas qu'ils aboient à leur tour.
Ouais, peut-être il fallait juste, être respectueux, je dirais que.
Moi, j'aurais trouvé bien, mais bon, c'est vrai, on parle pas du cancer animal.
Non, c'est vrai. Mais d'un autre côté, bon, j'en ai parlé avec le professeur Lévra, puis lui, ça lui posait pas non plus un problème parce que les animaux dans des hôpitaux viennent pour aider les gens, pour leur remonter le moral. Bon, il y a un moment, on fait un choix, donc j'ai fait un choix.
Ce qui est formidable dans votre travail, Dominique de Risbourg, c'est qu'il y a des photos que j'ai toujours beaucoup aimées, qui sont d'une poésie absolue. Ce sont des fleurs fanées, des fleurs trop ouvertes, des fruits pourris. Alors, loin de tirer un parallèle avec ces photos lucides et que j'appelle un brin cruel ou en tout cas très nature, il y a une tendresse particulière pour ce qui passe dans le fond. Une fleur qui perd tout, qui est au bout. Il y a plus de poésie qu'une belle rose.
Je pense, mais c'est comme la vie. La vie, on photographie un bébé, c'est très beau. On photographie un adolescent, c'est très beau. Après, on photographie quelqu'un de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60. Je pense que tout est beau à toutes les époques. J'ai fait une série de photos de fleurs où j'ai commencé à photographier le bourgeon, juste la petite fleur. Et puis, tous les jours, je la photographiais pendant 15 jours. Et puis, à la fin, c'était une fleur qui était complètement fanée.
Et les meilleures photos sont vers la fin ?
Les photos, dans le livre, vous parlez ?
Ouais, non, je sais pas, mais dans votre sentiment.
Je crois pas. Les photos, je retrouve les photos. Il y a aussi un état d'esprit. On peut aimer une photo un jour à un moment. Et puis, une photo qu'on a fait il y a 10 ans, qu'on n'a même pas vue, on reprend une archive et puis on va la découvrir, on va la trouver belle. Je pense qu'il y a un état d'esprit. Il n'y a pas de généralité sur ça.
Dominique de Risbourg, vous êtes un peu un photographe qui change de technique au fur et à mesure avec le temps, et vous passez du grand professionnel que vous avez été et que vous êtes encore à une attitude un peu particulière. Vous avez toujours un téléphone et vous photographiez beaucoup avec votre téléphone. Un peu comme les amateurs, un peu comme les gens qui font des selfies, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur ajoutée à photographier comme un adolescent qui fait une photo, vous, pas bébête, mais lui, peut-être oui.
Oh mais moi, elle est aussi bébête. Hein.
Non, pas toujours, non, non.
Pas toujours, mais...
Non, 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 non. Il y a des photos extraordinaires que vous avez faites avec un téléphone, même en Inde.
Oui, mais il faut juste replacer l'aspect technique a tellement évolué. Par exemple, avec un téléphone portable, on a la même qualité qu'avec un appareil photo numérique du début qui valait 50 000 francs. Sa différence, c'est que se balader toujours avec un gros appareil photo, c'est fatigant, on n'a pas toujours envie. Qu'un téléphone, on l'a avec soi tout le temps. Et puis, moi, j'ai l'œil, je pense, assez avide. Je suis tout le temps très curieux.
Oh, aiguisé, ouais.
Curieux. Donc, le fait d'avoir un objet avec soi tout le temps et de pouvoir faire une photo n'importe quand, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Fabuleux. Alors, ce truc des trois images superposées, c'est quelque chose que j'ai encore pas compris. Un jour, j'ai été photographié par vous à ma fenêtre, il y avait des fleurs, etc. Et tout d'un coup, tout est devenu irréel. C'est parce qu'il y en avait trois ?
Alors celle-là, non, ça s'était fait d'ailleurs avec un téléphone.
Ouais, oui, je m'en souviens.
Non, c'est simplement que moi, je reprends les images. Ces images comme ça, faites en couleur, j'essaye de les retravailler un peu comme des peintures. Donc
vous les bidouillez quand même ?
Oui, je les bidouille. Ces images-là, mais certaines images, oui. Mais pas les images de l'expo. Les images de l'expo, elles sont. Il n'y a aucune retouche. La seule retouche que je me suis permis de faire, c'est quand quelqu'un arrivait avec un petit bouton d'acné ou un petit bouton. Bon, ça, je me permettais par politesse et par galanterie de retirer parce que ça ne faisait pas partie du personnage. Mais une ride, je ne la retirais pas.
Les tirages, c'est vous qui les avez faits, Dominique de Risbourg ?
Alors, les tirages de l'expo, les petits tirages, 40-40, c'est moi qui les ai tous faits. Les grands tirages, je ne peux pas les faire, donc c'est un...
Vous avez vos bacs et tout, vous avez tout ici, à la cave ?
Alors maintenant, j'ai plus de bac, ouais, mais j'ai un bac sous mon imprimante.
Ah ouais, bah ça, c'est les nouvelles technologies, ça.
Bah, c'est les nouvelles technologies, ça évite de passer des heures dans le noir et d'avoir les mains qui sentent le révélateur et ou le fixateur.
Vous avez quel âge ? Parce qu'on a l'impression que vous avez la jeunesse encore complètement infuse, complètement intégrée et complètement bloquée.
Ouais, je pense que l'âge de ma tête, ça doit être 12 ans et demi.
Non, 22 ans et demi.
Non, 12 ans et demi et physiquement 52.
Vous ne les faites pas du tout.
Oh, bah, c'est gentil.
Alors, il y a toujours une chose, Dominique de Risbourg, mais ça, c'est une anecdote que l'auditeur doit connaître. Vous avez des sourcils qui ressemblent un hibou. Et tout le monde, chaque fois qu'on vous voit, les coiffeurs, à plus forte raison, on a envie de vous les couper. Ils font 7-8 cm. On dirait Brejnev, je vous appelle comme ça. Vous n'avez pas envie de couper ça ? Ou ça vous appartient tellement ? Vous en êtes si fier ?
Ça m'appartient. C'est ma marque de fabrique. Donc on ne touche pas.
Oh, mais c'est bien. Mais vous trouvez ça joli ?
Je ne les vois pas.
Bon, j'aimerais quand même vous dire qu'on les voit bien, hein, nous, au-dessus des lunettes.
Et ça vous gêne ?
Non, mais j'ai eu un grand plaisir à vous voir.
Moi aussi.
Alors, on rappelle que dès la semaine prochaine, on peut voir cette exposition, ces beaux visages, dans la galerie Ferrari à Vevey, sur le quai Perdonnet. Et qu'à partir du mercredi, on peut voir ça tous les après-midi.
Exactement. Et les deux premiers week-ends de l'exposition, je serai présent le samedi et le dimanche à la galerie. Donc, les gens pourront venir et on pourra discuter.
Merci beaucoup Dominique de Risbourg de nous avoir reçus ce dimanche soir. Et puis je vous souhaite belle chance et plein de fonds qui iront à Fonds d'Action.
À Fonds d'Action. Merci beaucoup.
Et pour se quitter, on écoute Natalia Doko. C'est Freezing in the Sun.
chills down my spine are just memories of a time. Now I'm haunted 'cause I thought you were only mine, and I just can't get away. I've been frozen in one place and I'm not moving on. Tell me why.
Sur RTS, la première, il va être minuit dans quelques secondes. On se quitte ici. Il va être ce minuit pour dormir. Il vous faudra dormir et on se retrouve dimanche prochain. Bye bye. Bonne nuit. Il est minuit.